La REF, la renaissance des entreprises de France à l'air libre. Un événement organisé par le MEDEF les 24, 25 et 26 août en direct de l'hippodrome de Paris-Longchamp.
Eh ben bonjour à toutes et tous, 8 et fin de cette REF rencontre des entrepreneurs de France. C'est le dernier jour ici à l'hippodrome de Longchamp organisé par le MEDEF, cette REF. Et puis on est ravis de l'avoir sur notre plateau, il est environ de midi. Daniel Dubrac, président de l'UNIS, est avec nous. Bonjour Daniel, comment allez-vous?
Bonjour, bonjour à toutes et tous, je vais très bien. Aujourd'hui c'est un lieu magnifique avec des gens extraordinaires puisque c'est très convivial, on rencontre tous les chefs d'entreprise.
Ça fait du bien de revoir du monde.
Voilà, et puis tous les partenaires, tous les fournisseurs, tous les prestataires. Donc c'est vraiment un moment très utile et très intéressant, y compris intellectuellement.
Et bien voilà, le mot est dit, intellectuellement, c'est utile, c'est important, c'est l'événement de la rentrée. Sylvain Lévy-Valency, vous êtes avec nous sur ce plateau aussi pour poser les questions à Daniel Dubrac, présidente de l'UNIS. Comment allez-vous, Sylvain?
Eh bien écoutez, ça va bien, mon cher Nicolas. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je crois qu'on sera avec Madame la ministre du Logement.
Avec Madame Vargon,
tout à fait. Emmanuel Vargon, qu'on va retrouver d'ailleurs chez nous sur nos plateaux avec Stéphane Plaza le 13 septembre. Pour notre émission du Grand Rendez-vous de l'Immobilier avec nos confrères de Capital. Alors, Daniel, on se connaît bien. Vous êtes maintenant la présidente de l'UNI. Vous avez succédé à Christophe Tanet. On sort d'un confinement bis repetita, 1, 2, 3 confinements, avec ici une euphorie qui règne très forte, cette envie de nous retrouver physiquement. C'est endémique, c'est une nature humaine de vouloir se retrouver. Alors, on ne peut pas tout à fait se toucher parce qu'effectivement, maintenant, il y a des gestes barrières et sanitaires. Et on a l'impression que les entrepreneurs aujourd'hui qu'on a rencontrés sont hyper euphoriques. J'ai eu le plaisir de recevoir ce matin Olivier Saleron qui nous a dit que ses carnets de commandes étaient pleins. Mais bon, problématique de matières premières notamment, qui pose un vrai problème sur les chantiers. Des carnets de commandes remplis entre 8 et 10 mois en moyenne, ce qui est plutôt bon. Et on a l'impression que il y a une espèce d'effet de rebond très positif. Est-ce que vous confirmez ce côté très euphorique des entrepreneurs en disant on s'en est bien sorti, ça marche bien, on revient presque à la normale d'avant 2020, presque à 2019, ou est-ce que c'est pas un arbre qui cache la forêt? On se dit voilà, après l'euphorie, le réveil est un peu brutal.
Alors moi je pense qu'on peut peut-être pas parler d'euphorie mais d'optimisme. On est optimiste et on est réaliste. Alors on est optimiste parce qu'il y a quand même eu toutes les aides que le gouvernement a donné aux entreprises pour maintenir les activités. Alors c'est vrai que dans l'immobilier, l'activité avec les passes sanitaires, avec les consignes, on a quand même pu continuer nos métiers, nos actes de gestion. Il est vrai aussi qu'au niveau du marché, bon, il est quand même en hausse à un haut niveau, même si quand même sur Paris, intramuros, on sent dans le cadre du marché d'habitation une forme de tassement. Donc attention, parce que souvent Paris indique ce qui va se passer sur les territoires. Mais l'effet Covid a fait qu'il y a eu quand même beaucoup de ventes. Par contre, attention, tout ce qui est primo-accédant, les prêts, la sécurisation des prêts avec le fameux reste à charge devient quand même compliqué. Il peut y avoir une baisse des ventes, au moins pour les primo-accédants. Donc on est réaliste. Après, attention au creusement des inégalités et attention au changement climatique malgré tout.
Justement, les primo-accédants, comment vous voyez leur accession à la propriété là, pour les mois, les semaines, les années à venir, notamment avec les nouvelles recommandations du HESF? Comment vous voyez justement ces primo-accédants dans le marché de l'immobilier?
Moi, je les vois quand même faisant un parcours résidentiel. Il vaut mieux être locataire et puis ensuite copropriétaire ou propriétaire sa maison individuelle plutôt peut-être de se lancer tout de suite. Mais encore faut-il qu'il y ait des logements d'abord à louer et ensuite à acheter.
Mais oui, bien sûr.
Et vous savez bien que la loi climat et résilience a été publiée il y a 2 jours.
Voilà, et a été adoptée.
Voilà, a été adoptée, donc dont acte.
Il n'y a plus de débat.
Donc nous, on va être vigilants.
Étiquette retirée en 2025-2028, étiquette FG, un tiers du parc locatif privé est concerné par cette norme. Daniel Dubrac, on va faire comment pour les jolis Français en 2028? Si jamais on n'a pas rénové 1 700 000 logements.
Il faut aider. Il faut vraiment, avec l'histoire du changement climatique quand même, on voit bien qu'il y a des conditions extrêmes, des événements fréquents, etc. Et le creusement des inégalités, il faut absolument que le logement il devienne abordable et aussi à haute performance énergétique.
Comment on peut rendre un logement abordable alors même que l'impact des loyers du règlement des loyers, vous savez, de l'encadrement des loyers à Paris ou dans certaines villes, ne démontre pas ce qu'on pourrait dire une totale efficacité, si je peux m'exprimer ainsi pour ne pas être plus...
Déjà, je dirais, comme recommandation de base, comme la fameuse DPE qui est en mise en œuvre depuis le 1er juillet 2021.
DPE opposable.
Opposable, avec tous les critères, les nouveaux modes de calcul, l'étiquette énergétique qui va faire qu'on risque d'être bien classé ou au contraire déclassé. Déjà, connaître son étiquette. Est-ce que tout le monde a regardé dans son bail, est-ce que tout le monde, tous les propriétaires, les locataires devraient vraiment s'interroger sur cette étiquette ? Parce qu'après, c'est là où on va voir si on va pouvoir loger les gens. Et si on ne peut pas les loger, si on ne peut pas les, au moins les louer, à ce moment-là, il faudra faire des travaux. Donc MaPrimeRénov' jusqu'en 2022, c'est bien, mais il va falloir plus. Je pense qu'en matière d'inégalité, et donc les primo-accédants en achat ou en location, il va falloir les aider. S'ils sont en précarité énergétique, il va falloir que le reste à charge soit diminuer, voire peut-être annuler dans certaines conditions. Je sais bien que ça représente beaucoup de difficultés financières, mais je ne vois pas autrement comment on va faire pour avoir un logement abordable à haute performance. Donc la première recommandation, c'est vraiment de regarder l'étiquette. Et par contre, bonjour les dégâts. Hein, sur alors, les documents bien, à demander, c'est
alors
l'horreur.
Vous, alors vous qui connaissez bien le métier, parce que vous êtes, avant d'être une présidente de syndicat, vous êtes aussi une entrepreneur et spécialiste de l'immobilier. Très, très basiquement, on a fait une étude. On a demandé aux locataires, aux candidats à la location, s'ils regarderaient ou utiliseraient l'opposabilité potentielle, c'est-à-dire l'outil juridique dont a été doté le DPE opposable, pour justement demander les recours et les éléments juridiques autour de ces éléments-là. Vous savez ce qu'ils ont répondu ? On est tellement content déjà d'avoir un logement on ne va certainement pas regarder l'étiquette. Et qui se disent, même mieux, je ne vais surtout pas demander en justice un recours opposable par rapport au DPE. Je suis déjà tellement content que l'ADB ou le particulier ait accepté mon dossier. Donc on voit bien qu'il y a une relation entre deux poids, deux mesures. On voit bien qu'il y a une pression parmi les habitants qui n'ont pas la possibilité de trouver des logements corrects au prix où ils le souhaitent. Et un arsenal juridique, dispositif, qui est fait pour eux, mais qu'ils n'utiliseront finalement pas. C'est l'image qu'on en a.
Il faut une bonne relation entre l'occupant et puis le propriétaire du logement. Ça peut être via son gestionnaire de copropriété ou de locatif qui
mais
va
c'est mieux
quand il y a un indiquer
en
des
fait,
informations.
Il y a un ADB, c'est mieux parce que l'ADB...
C'est mieux parce que l'ADB, il va...
Mais oui, il ne prendra pas le mandat de gestion si jamais il y a un DPE qui n'est pas bon.
Il ne prendra pas et puis il essaiera au contraire de
bien
faire
sûr.
Des préconisations en matière de travaux,
bien
tout
sûr.
Simplement, de
bon.
Trouver des aides de financement pour aider le propriétaire. Mais ça risque quand même de poser des difficultés à tous ceux qui veulent se loger, effectivement. Et puis aussi, il faut parler des fonds d'investissement. Est-ce qu'ils ne vont pas aller vers des logements qui vont être dans des écoquartiers et neufs au détriment de logements anciens
sur lesquels
il y aura à rénover. Et c'est vrai qu'il y a deux visions différentes aujourd'hui. Soit on vend un logement ancien et on a une étiquette qui est mauvaise et donc du coup le prix va être déprécié, ou au contraire, on fait les travaux tout de suite et puis ensuite on revalorise à la vente le bien.
Et puis pour revenir sur les dispositifs économiques hein, d'incitation à la rénovation énergétique, pour l'instant, ben voilà, il y a des dispositifs, ça existe. Est-ce qu'à un moment, il n'y a pas aussi le risque de ce couperet qui tombe ? Il n'y a plus de dispositif d'incitation, ça devient obligatoire et du coup, je ne mets pas le dispositif d'aide en face.
Moi, je pense que les gouvernements et puis les mouvements patronaux comme le MEDEF ici et la CPME vont aider. Il faut aller quand même vers la justice climatique. C'est faire en sorte que on puisse prendre en charge toute la rénovation des bâtiments, puisqu'on est quand même dans ce dérèglement et de ce changement climatique et ces obligations de réduction des gaz à effet de serre, et le fait d'avoir des contraintes qui sont de ne plus pouvoir louer. D'ici 2-3 ans, on ne va plus pouvoir être obligé de faire des travaux, puis ensuite on ne pourra plus louer. Donc il va bien falloir aider, il va bien falloir des incitations financières, fiscales, ou carrément des aides aux gens les plus vulnérables, les plus modestes. Je pense que tout le monde va être sur cette longueur d'onde, et en tout cas, nous, les professionnels, on va sensibiliser et on va aider pour trouver des financements.
Daniel Dubrac, on arrive dans une période qui est une période d'élection majeure dans le pays, hein, qui est l'élection la plus suivie par les Français. C'est-à-dire c'est l'élection sur laquelle, en principe, ils votent le plus. Hein. C'est l'élection présidentielle. Bon, c'est pas loin, hein, c'est mai 2022. Vous avez vu le rapport Rebsamen qui a donné lieu à beaucoup, beaucoup de mesures pour relancer l'immobilier neuf. On peut déplorer d'ailleurs que ce gouvernement ait attendu plus de 4 ans pour avoir un rapport sur la crise du logement neuf, hein, par exemple, qui est vraiment, vraiment en berne cette année. Est-ce que vous pensez que les candidats à l'élection présidentielle vont essayer de mettre, encore une fois, comme vous le souhaitiez aussi par ailleurs, la politique du logement au cœur de leur plan ?
On le souhaite. On sent quand même qu'il y a des petites... des petits mouvements sur le sujet. En tout cas, les syndicats professionnels, comme notamment UNIS, que je préside, on va vers un manifeste avec un certain nombre de points sur la politique foncière, sur l'investissement locatif et sur les aides liées à la rénovation. Je pense que les aides à la rénovation, parce que le parc, vous le disiez, hein, il y a 30 millions de résidences principales en France, il y en a plus de 7 millions dans le parc privé. Le parc privé, ce sont des bailleurs qui sont très souvent en copropriété, donc ça veut dire que la décision ne lui appartient pas, elle est collective. Et donc là, il faut mettre le paquet sur ce type de profil et de personne qu'est le bailleur privé, et qui est un acteur économique, comme l'est une entreprise telle qu'on la voit aujourd'hui à la REF.
Il y a eu de bonnes initiatives, puisque effectivement, l'élargissement de MaPrimeRénov' à l'échelle de la copro, de la copropriété, c'est un bon signal qui a été envoyé par... Aujourd'hui, ça a fait un carton, puisque l'objectif en 2020, il y a eu à peu près 300 000 dossiers. Ils avaient été atteints, ces 300 000 dossiers, dans le premier trimestre 2021. Et il est probable que cette année, on soit à plus de 800 000 dossiers de prise en charge de MaPrimeRénov'. C'est un carton.
C'est un carton. Les professionnels sensibilisent. Après, il faut regarder si c'est de la maison individuelle ou du logement en habitat collectif.
Bien sûr.
Pas tout à fait pareil.
C'est pas la même chose, absolument.
Mais voilà. Hein, et puis, le calcul des DPE aujourd'hui pose des difficultés. Une collecte de documents, c'est nouveau. Ça demande énormément de temps. Il faut donner des détails qui font que si on ne les donne pas, il peut y avoir un déclassement du logement. Donc ça, c'est du travail pour la rentrée, mais qui est un travail hyper intéressant. Et vraiment, loger tout le monde, c'est possible. Mais attention, parce que avec ce Covid, il y a quand même beaucoup plus de gens pauvres, notamment en France, dans le monde, bien évidemment.
Les inégalités se sont creusées. Hein.
Oui, les inégalités sont creusées. Il faudrait vraiment que les politiques, je dirais, de réduction des inégalités visent la suppression de la pauvreté d'ici 2030, par exemple, par rapport à un revenu médian aujourd'hui qui est à 1700 euros, qu'on atteigne au moins, que plus personne ne gagne moins de 50% de ce revenu médian.
Ce matin, on avait sur le plateau un philosophe, essayiste, romancier, qui est le président du think tank Génération Libre, Gaspard Koenig, qui est très libéral, hein, qui a un côté très libéral. Alors libéral, ça ne veut pas dire être de droite ou de gauche, hein, il l'a rappelé quand même, pas si important. Il plaide pour un revenu universel. Est-ce que, par exemple, une mesure d'un revenu universel, donc un revenu donc automatique, universel, donc valable pour tous ceux, mais pauvres ou riches, hein, je précise, parce que universel, donc forcément tout le monde, ça serait une bonne mesure, par exemple, justement, pour essayer d'atténuer cet impact qui creuse les inégalités, surtout quand on voit, par exemple, la tragédie sanitaire qu'on vient de vivre.
Je crois qu'il faut aider les plus vulnérables et les plus modestes. Alors, est-ce que ça passe par un revenu universel ? Peut-être que oui, peut-être que non, parce qu'il faut voir qui paye. Qui paye ?
Mais oui,
au
mais
final,
c'est ça,
qui paye ? Donc,
Bruno Le Maire a dit hier, l'arrosage, c'est fini.
D'accord.
Le quoi qu'il en coûte, c'est fini.
Je pense que ça va quand même continuer pour certains secteurs d'activité.
Fini l'arrosage, maintenant, on fait du ciblage. On voit bien qu'il va y avoir une décrudescence, on est d'accord ? Des aides. Et là, à mon avis, ça va peut-être révéler des situations particulières, y compris d'ailleurs pour des personnes qui se sont retrouvées très appauvries dans des secteurs d'activité qui ont été sinistrés. Hein.
Très appauvries et puis aussi sans travail, au chômage, alors qu'on est dans des secteurs, l'immobilier, c'est un secteur qui recrute. Hein. Les mandataires immobiliers font
un carton. Un carton.
Voilà, nous, on cherche des comptables, des gestionnaires de copro.
Combien d'emplois aujourd'hui, si on devait chiffrer, l'immobilier pourrait recruter là ? À l'instant T, si on fait une photographie.
Ça dépend si vous parlez de la promotion, de la gestion.
Alors, prenons les
lois. Des milliers d'emplois.
Voilà, les lois Hoguet, gestion de copro, transactions.
C'est une question difficile que vous me posez, mais à chaque fois qu'on rencontre une entreprise dans la gestion immobilière, une sur deux a une difficulté de recrutement.
Donc on voit bien
que ça soit la standardiste qui, quand même, doit connaître. Le côté immobilier de la comptable qui est spécifique lié au plan comptable de l'immobilier.
D'accord.
Donc une entreprise sur deux.
C'est énorme, c'est considérable. Alors j'avais lu une statistique qui disait que l'immobilier, loi Hoguet, y compris la promotion immobilière, pourrait avoir la possibilité de recruter 250 000 personnes dans l'industrie. dans l'industrie immobilière. Promotion.
La promotion comprise, oui, promotion, parce qu'autrement...
Oui, oui. Promotion, ouais. Distribution, c'est-à-dire que transactions immobilières, syndicat de copropriété, syndic de copropriété et autres. C'est considérable. Enfin, ça reste quand même une industrie, une branche d'activité extrêmement importante. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que les politiques, les élus, en général, vous considèrent mieux ? Vous tapez moins un peu dessus avec l'empilage, vous savez, normatif, des normes qui s'empilent les unes aux autres.
Il faudrait quand même voir la réalité du juste prix, le juste prix à payer. Il y a un acte de gestion qui est ce qu'il est et qui a un prix de revient minimum. Il ne faudrait pas descendre ce plancher-là. Donc les modèles économiques sont quand même à prendre en compte. Au niveau du gouvernement, on a la chance d'avoir Emmanuelle Wargon qui est très attentive, qui est à l'écoute. On est allé la voir récemment parce qu'on avait des petits sujets sur des sociétés de prestations extérieures qui font des prix à casser.
Je vois ce que vous voulez dire.
Voilà, mais
on ne prononcera pas le nom.
Non, voilà. Mais sont attentifs. Ouais, et il faut bien considérer le logement social, le logement privé. Et puis, tous les partenariats qui existent, par exemple Action Logement qui est présent ici, qui aide aussi les professionnels à loger les candidats que nous avons.
Eh bien, écoutez, Daniel Lubrac, c'est déjà la fin de cet entretien sur Radio Immo, Radio Territoria. Bon, on a le temps encore d'en reparler de tous ces sujets. On va revenir, on y reviendra. On vous rappellera Daniel Lubrac, l'Unis en région aussi, chez nous sur Radio Immo.
Et on se voit bientôt d'ailleurs pour le congrès de l'Unis qui a lieu à Deauville. On va se retrouver et on vous donnera aussi rendez-vous au CESE, Conseil environnemental. Alors, je ne sais plus, on dit Conseil économique, social et environnemental.
Voilà, le E a été rajouté il y a quelques années et on sent que ça compte aujourd'hui.
Avec l'Unis Île-de-France qui organise cette rencontre
Absolument.
Tous les ans.
Je salue Émilie, je sais qui est la présidente qui organise ça avec Benjamin.
C'est le 9 septembre. C'est le 9 septembre. On va recevoir effectivement des personnalités aussi de la région francilienne. Vous avez raison de dire d'ailleurs aussi que Paris est aussi un indicateur de tendance sur le plan immobilier. Et puis aussi, il y a l'Unis Night. Grande soirée que vous faites, elle va se tenir cette année.
Je salue tous les adhérents d'Unis et vraiment je leur dis de venir à la fois à Unis au CESE et puis bien sûr au congrès de Deauville, même une journée, peu importe. D'ailleurs, la ministre du Logement sera présente, ainsi que d'autres fédérations.
Elle a confirmé sa venue, et Radio Immo sera présent, soyez-en sûrs aussi, pour ce fabuleux congrès, l'Unis. Alors si on veut en savoir plus sur l'Unis, il vous suffit d'aller sur le site Internet de l'UNIS. Merci Daniel Lubrac.
Merci beaucoup, merci à vous et bonne continuation.
Merci.
À très vite.
La REF, la renaissance des entreprises de France à l'air libre. Un événement organisé par le MEDEF à réécouter et télécharger sur le site et l'application radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.